14h-15h le samedi, kiosque Cynthia Isarelli.
Bonjour, vous tombez bien, aujourd'hui on ouvre. On cherche à tâtons l'interrupteur, on relance la chaudière, on tire les rideaux et entre deux coups de balai, on tente de faire collectif face à l'adversité. À Bruxelles, après une fermeture forcée pour cause de travaux urgents, le théâtre Océan Nord rouvre ses portes et reprend vie avec, sur sa scène, une création intitulée « L'ère du Verseau ». Une histoire de fin de cycle, de déménagement forcé aussi, et de gens qui s'accrochent les uns aux autres pour avancer sur la roue du temps. La Russie de Tchekhov et l'Europe d'aujourd'hui s'entrechoquent sous la main talentueuse du collectif Colonel Astral. On en parle donc aujourd'hui avec Guimette Laurent, metteuse en scène du spectacle et directrice adjointe du théâtre Océan Nord. Le groupe, c'est beau, mais c'est pas facile. Ça aurait pu être l'autre titre du nouveau spectacle du collectif Rien de Spécial. L'histoire de quatre personnes qui investissent un lieu partagé. Appartement, manoir à l'abandon ou espace de coworking, on ne le saura pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que chacun et chacune a son avis sur comment agencer cette vie de groupe qui ne s'annonce pas de tout repos. Ça s'appelle, en général, Nous sommes d'accord, c'est à voir en divers lieux de Bruxelles, comme par exemple au 140 dans quelques jours. Et on reçoit pour vous en parler Marie Lecomte et Hervé Piron. Et au comptoir du kiosque aujourd'hui, il y a Fanny Cuisset. Bonjour Fanny.
Bonjour Cynthia, bonjour à toutes et tous.
Et on va aussi parler collectif avec vous finalement.
Effectivement, ça va être collectif, intergénérationnel. Vous allez voir, c'était une belle rencontre au Wolubili.
Eh bien voilà, ce sera tout à l'heure dans votre chronique de la semaine. Ici aussi, ça bosse en collectif. Merci à Perrine Lucas et André Arroyo qui préparent et réalisent cette émission. Et merci à vous, sans qui tout ceci n'a pas de raison d'être. Le kiosque est ouvert cette semaine. On occupe le terrain tous ensemble.
Kiosque sur la première.
Et il y a des moments comme ça où l'histoire semble retenir son souffle, des instants suspendus, où un monde touche à sa fin sans que le suivant ait encore réellement trouvé sa forme. Alors on regarde autour de soi, on sent que quelque chose vacille, mais on hésite, on temporise, on se raccroche à ce qui fut, même quand ça ne tient plus debout. Et c'est exactement cet entre-deux que traverse l'ère du Verseau. C'est une pièce qui regarde le monde au moment précis où il bascule, sans mode d'emploi, sans solution, mais avec acuité. C'est un spectacle qui fait dialoguer les fantômes de Tchekhov, l'élan révolutionnaire de Maxime Gorki, et un présent saturé d'inquiétude, de deuil et de désir de transformation. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Guimette Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Kiosque. Guimette, vous êtes metteuse en scène, dramaturge, cofondatrice du Colonel Astral, le collectif qui, depuis plus de 10 ans, déjà explore ces zones troubles, justement, entre théâtre, littérature et politique. On va rappeler qu'il y avait déjà eu deux spectacles comme un diptyque, hein, Nasha Moskva et Todos Kaeran, qui interrogeaient déjà la répétition, l'inaction, le fantasme de changement. Et là, vous revenez avec L'ère du Verseau. On va faire le pitch en quelques secondes. C'est l'histoire d'une femme qui revient dans sa maison d'enfance qu'elle avait fui après la mort de son mari et la noyade de son fils cadet. Elle revient, mais la propriété familiale et la cerisaie qui y est attachée doivent être vendues pour dette. Il y a plein de gens qui s'entourent d'eux, qui se mettent autour d'eux pour leur donner des conseils et des avertissements. Mais malgré tout ça, cette femme qui s'appelle Lyubov et son frère n'ont pas l'air d'avoir envie d'agir pour sauver ce qu'il y a encore à sauver. Alors c'est une adaptation de la cerisaie de Tchekhov, qui a été écrite en 1904. C'est une histoire qui est souvent reportée à la scène. C'est l'histoire de cette famille aristocratique, je vais y arriver, qui est ruinée, qui est incapable de revendre ce domaine pour survivre. Et vous y avez mêlé, on va en reparler, des fragments d'une autre œuvre, La mère de Maxime Gorki, qui a été écrite juste après, qui est un roman de 1907. On va y revenir dans un instant, mais moi je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie à tous et toutes de revenir encore une fois à Tchekhov, que vous aviez déjà exploré dans les deux spectacles précédents, vu qu'on partait des trois sœurs de Tchekhov. Pourquoi revenir à Tchekhov? Pourquoi à la cerisée? Pourquoi maintenant?
On n'arrive pas à s'en défaire, en fait. Ça me colle comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il y a un fort effet de miroir chez Tchekhov, que ce soit pour nous, évidemment, mais pas que pour nous. On se rend compte que Tchekhov produit chez ceux qui le travaillent, qui le lisent, qui le voient, une sensation de reconnaissance que peu d'auteurs ou d'autrices permettent, en fait. C'est un auteur qui cherche à décrire exactement la vie, et pas à diffuser un message, ce qui n'est pas le cas de Gorki, par exemple, qui, lui, a plutôt envie de diffuser un message. Mais chez Tchekhov, il y a une volonté de l'auteur de marquer, de correspondre exactement à ce que c'est que le vivant, avec ses failles, avec ses côtés sublimes, ses côtés ridicules. Et donc, ça produit effectivement une sensation qu'il parle de nous, toujours aujourd'hui.
Même à 100 ans de distance.
Même à 100 ans de distance. Ouais. Et ça, c'est très extraordinaire, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé Tchekhov avec des jeunes gens, dont certains qui n'ont rien à voir avec Tchekhov. Je l'ai travaillé au lycée Émile Max il y a quelques années à Skarbek. Et j'avais affaire à des gens très jeunes, pour la plupart issus de la communauté turque, donc qui sembleraient très très loin d'un auteur russe du début du 20e, voilà, de la fin du 19e même. Et pourtant, ça marche. Ça marche super bien, quoi. Ils ont super envie de jouer, ils se reconnaissent là-dedans, ils savent.
Ouais. Alors, à cette œuvre qui nous raconte finalement un intérieur assez bourgeois, assez aristocrate en fin de cycle, vous venez mélanger, on l'a dit, des morceaux d'un roman qui a été écrit 3 ans après la pièce, La mère de Maxime Gorki, où là, c'est pas du tout la même ambiance. C'est une femme du peuple qui, elle, va commencer à se politiser petit à petit au contact des luttes ouvrières jusqu'à devenir une actrice du changement. Donc c'est deux mouvements complètement différents, c'est deux endroits différents aussi de la culture sociale. Qu'est-ce qui vous intéressait justement dans le dialogue entre ces deux récits ?
C'était la sensation, nous, Colonel Astral, que nous assistions à un bouleversement de la part des jeunes générations que nous avions devant nous. Une volonté forcenée de changer les choses, de faire révolution d'une certaine manière. Et que face à cette volonté de changement, nous étions en partie démunis. C'est-à-dire que on était à la fois enthousiastes et en même temps on regardait les choses se faire. Et donc il y avait une volonté de raconter ça en fait dans ce spectacle-ci. Et il y avait cette volonté de dire que nous étions proches des personnages de Tchekhov qui regardait la jeunesse vouloir changer et que Gorki raconte ça en fait, raconte la révolution en fait. C'est une pièce révolutionnaire, La mère, c'est l'idée que la jeunesse produit le mouvement et entraîne à sa suite d'autres générations. Et ça, c'était quelque chose qui nous intéressait vraiment.
Ouais. Ça doit forcément venir de la jeunesse, le mouvement. Tous les exemples qu'on a eus, c'est forcément la nouvelle génération qui amène le mouvement. Il y a un moment, inévitablement, où quand on avance dans l'âge, on s'arrête.
Ben non, c'est ça justement que la mère raconte, c'est que c'est pas parce qu'on est vieux, parce que la mère n'est pas toute jeune, qu'on ne fait rien en fait. Ça, c'est aussi un enseignement de Tchekhov, c'est que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a des jeunes qui sont ultra-révolutionnaires, il y en a d'autres qui sont plutôt réactionnaires, et il y a des vieux qui sont réactionnaires et qui peuvent tout d'un coup se révéler être révolutionnaires. C'est le cas de la mère de Gorki. Elle décide d'agir parce que son fils est lui-même activiste.
Oui.
Et donc, du coup, bah, elle se lance comme ça dans la révolution. Et elle devient une des figures centrales puisque le roman se termine, elle est sur les barricades, un drapeau rouge à la main, quoi.
Ça pose aussi la question du choix, finalement. Face à un mouvement qui s'amorce, on a toujours le choix de rester sur place et de s'éteindre avec ce qui est en train de s'éteindre ou d'avancer, parce que finalement on a d'un côté ces deux personnages qui refusent finalement le changement, qui refusent de sauver ce qui pourrait être sauvé et qui préfèrent tout flamber dans un dernier geste de panache. Et puis on a ces inserts avec cette mère qui elle s'accroche, veut changer, veut comprendre et veut avancer avec la révolution qui arrive.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, Tchekhov, il dit aussi que c'est pas si simple que ça de choisir de bouger. Gaef et Lioubov, c'est sûr, ils font pas grand-chose. Ils continuent à aller au restaurant, à boire de la vodka. Et le jour où la cerisée est vendue, ils font la fête. Donc on a comme ça une sensation de très grande inertie. Et en même temps, c'est ça aussi qui produit l'effet de reconnaissance. C'est-à-dire que bon, on sait bien, le réchauffement climatique est là. Vraisemblablement, la Terre va avoir des gros problèmes dans les années à venir et les années proches. Et pourtant, alors que moi, je suis une convaincue de l'écologie, je vais quand même prendre ma voiture pour aller faire des courses chez Ikea et je ne vais pas avoir. Il y a aussi cette sensation que c'est pas simplement une question de volonté. Mm-hmm. Et Tchekhov décrit assez bien ça.
Ouais.
Il décrit assez bien que ils aimeraient bien, je crois au fond, bouger, mais surtout. Ils veulent pas que ça change. Ils sont bien là où ils sont. Et c'est difficile quand on est confortablement assis de dire « Allez, je vais aller sur la chaise un peu plus dure de l'autre côté de la table. »
C'est ce qui les rend aussi profondément touchants, en fait, presque rigolo. On les envie un peu parce qu'ils ont vraiment, j'ai dit, ils ont une forme de panache comme ça. C'est des anciennes aristocrates ruinées. Elle continue de dépenser l'argent qu'elle n'a presque plus. Lui, il erre comme ça dans ce domaine en peignoir de soie. Il continue à raconter ses parties de billard et à boire. Ils sont là, installés au soleil, effectivement. Et ils ont quelque chose des losers magnifiques, en fait. C'est très cinégénique, c'est très, très beau. On a envie d'être eux, mais on se rend quand même compte qu'au moment où le rideau va tomber, c'est pas viable. Ils vont devoir changer, ils vont devoir aller faire autre chose. Et ça, vous nous le montrez, mais en partie, parce que vous nous les montrez juste après, au moment où ils sont sur le point de faire le premier pas vers leur vie future.
Oui, je suis pas sûre que l'avenir soit totalement rose. Mais je vous rassure, hein, nous sommes eux.
On parlait aussi de ce mouvement amorcé par les jeunes et c'est vrai que sur le plateau il y a de ça aussi vu qu'il y a trois générations d'actrices qui sont réunies, il y a 8 interprètes sur scène. Peut-être sans forcément entrer dans le détail de chaque rôle, on va pas tout déflorer, mais est-ce que vous pourriez nous faire une galerie comme ça de ces trois âges peut-être du théâtre et de ces trois âges tout court qu'on voit sur scène.
Oui, parce qu'on avait quand même envie, comme on est un peu auto-centré, nous, le colonel Astral, forcément, on avait quand même un peu envie de parler de nous, ouais. Et du théâtre surtout. Donc il y a une sorte de double jeu perpétuel comme ça dans le spectacle. Et effectivement, on avait envie de travailler sur dans le texte de Tchekhov. La question de la génération est énorme, en fait. Hein. Y a des enfants, les parents et les grands-parents. Enfin, il y a trois générations sur le plateau. Et on avait vraiment envie que nous aussi, il y ait trois générations sur le plateau. Donc, il y a deux personnages plus âgés, joués par Didier Denec et Jo Deuzer, mm-hmm. qui sont deux figures du théâtre belge, quand ouais. même, importantes. Firth, c'est le serviteur de la maison.
Mais qu'on appelle grand-père, finalement.
Oui, parce qu'en Russie, tout le monde est babouchka et grand-père de tout le monde. Mais en même temps, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une figure paternelle. Il s'occupe de ces adultes qui n'ont pas réussi à grandir et qui sont finalement des grands-enfants. Et il continue à s'en occuper comme s'ils avaient 8 ans alors qu'ils en ont 50. Là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait très fort écho à nos sociétés dans lesquelles la question de l'enfance, enfin, on a du mal à s'en défaire de cet âge qu'on a tous redoré avec les années.
Ce qu'on appelle les kiddles aujourd'hui,
oui,
les enfants
ça.
Adultes.
Oui, 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 oui. Et donc, il y a Firth, qui est joué par Didier, qui essaye désespérément de s'occuper de ces gens qui errent dans cette belle maison. Et à Charlotta, qui a un rôle un tout petit peu particulier parce qu'elle est un peu à part, c'est une magicienne. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là, elle vit au crochet de la famille. Elle est un peu punk comme ça.
Ouais.
Hein.
On fait des tours avec des cartes, elle parle allemand.
Oui, voilà, c'est ça. Elle est un peu. Elle se fout un peu de tout. C'est un peu la nar de service comme ça. et puis, il y a les trois personnages principaux donc, qui sont Gaëf, Lyubov. Et Lopakhine, qui sont des adultes, on va dire la génération des adultes. Et puis, on a trois jeunes personnes. Anya, qui est, elle, très jeune, elle a 17 ans, qui est la fille de Lyubov, sa fille naturelle. On a Varia, qui est la fille adoptive, donc qui a un statut un tout petit peu particulier. Elle n'est pas tout à fait traitée comme la fille naturelle. Elle travaille beaucoup plus. C'est un peu une superintendante, comme ça, une gouvernante. Et puis, on a Trofimov, qui est lui aussi, il vit au crochet de cette famille. C'est un étudiant. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il était le précepteur de l'enfant qui est mort.
Oui.
Et il est resté.
Il y a un effet un peu cour de Versailles aussi. Parfois, on est là juste parce qu'on amuse ou parce qu'il y a du sentiment, mais les gens n'ont pas vraiment d'emploi et ça a l'air un petit peu de tourner à vide, cette machine. Et ce qui fait aussi que ça tourne à vide, c'est le deuil, parce que toute l'histoire aussi tourne autour de ce deuil impossible à faire, le deuil de l'enfant qui s'est noyé, le petit frère, le fils, le deuil d'un statut social, le deuil d'une époque, le deuil d'une vie, le deuil aussi d'une certaine forme de nature, parce que ce qui est au cœur, finalement, de la tension, c'est que ce domaine va être vendu et qu'une des solutions pour recouvrer la dette, c'est d'abattre cette cerisée qui n'est plus du tout rentable et d'en faire des lotissements pour les touristes qui vont bientôt arriver, qui vont bientôt envahir la région. Évidemment, tout ça résonne énormément avec un millier de situations proches ou lointaines qu'on voit dans les médias aujourd'hui.
Oui, c'est très étonnant. Hein. C'est très étonnant de voir comment, à 100 ans de distance... Il est resté. Enfin, Tchekhov a su mettre en place une situation qui résonne encore aujourd'hui. Et effectivement, nous, on nous dit beaucoup parce que c'est une adaptation, mais on nous dit beaucoup. Vous avez vraiment beaucoup adapté. Et quand on ouvre le texte, on se rend compte qu'on n'a finalement pas fait grand-chose et que non, c'est pas vrai. Il y a quand même un gros travail d'adaptation de Marie Boss et Francesco Italiano, mais on est quand même resté très très fidèle à la langue de Tchekhov. Oui. On n'en fait pas. On ne tire pas tellement à nous. Mm-hmm. C'est moi, je suis à chaque fois très troublée par le fait que ce soit si contemporain. En fait.
Ouais. Cet attachement finalement aveugle à un passé qui est déjà révolu et ce deuil impossible à faire à tous les niveaux, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce travail-là aussi?
Il y a la notion de sacrifice que je trouve intéressante parce que quand même, ce qui semble assez clair, c'est que les jeunes générations sont sacrifiées. Sont, parce que Anya, on sent que ça va pas aller très fort. Varia, c'est elle qui est le plus sacrifiée parce que c'est elle qui s'occupait de la maison, c'est elle qui faisait tourner la cerisée, c'est elle. Et finalement, on la chasse sans autre forme de, oui, d'intérêt, en fait.
Puis c'est une génération qui a des rêves, qui a des envies d'études, de réalisation. Et en fait, les précédents, finalement, ont flambé tout l'héritage. Il n'y a plus rien à transmettre.
Exactement, exactement. Et ça, je trouve quand même que c'est quelque chose qui, là aussi, fait penser à la situation dans laquelle on est, dans laquelle on vit, cette sensation qu'on n'a pas fait attention jusqu'à présent à ce qu'on nous avait légué et que maintenant, il va falloir le traiter autrement, en fait. Et très étrangement, chez Tchekhov, l'ouverture vers une révolution possible, elle n'est pas aussi très rose. Par exemple, le personnage de Trofimov est un personnage révolutionnaire, mais quand on l'écoute bien, on est un peu glacé aussi, parce qu'on sent que la révolution qui va venir ne porte en germe de la souffrance, de la destruction, on sent bien que la question du leadership, par exemple, est quelque chose qui intéresse Trofimov, que s'il faut se séparer de personnes pour y arriver, il le fera. Et c'est la réalité. Hein. La révolution russe n'a pas donné que un statut révolutionnaire intéressant. Enfin, n'a pas donné que les purges, les grandes purges staliniennes sont arrivées tout de suite après, quand même. Et on sent là aussi que notre jeunesse à nous, elle est aussi un peu à double tranchant. Parce que quand on regarde les masculinistes, par exemple, ou ce qui se passe aux États-Unis, ou les tentations extrêmement autoritaristes de certains et de certaines, ça fait un peu peur quand même.
Oui, et à ce constat que finalement, personne, aucun groupe, ni la noblesse, ni la bourgeoisie, ni la classe moyenne, ni la classe ouvrière, ni les jeunes, ni les vieux, personne ne semble avoir la réponse.
Non.
Et en même temps, ça s'appelle l'ère du Verseau. Donc, on nous dit, c'est un passage, c'est une porte, ça va passer, ça ira mieux après, quand on aura pris une décision, quelle qu'elle soit. Comment on s'arrange avec ce fatalisme, finalement, et comment on fait pour aller de l'avant, malgré tout, quand on a cette conscience, finalement, que personne n'a la réponse idéale?
Ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. La bonne nouvelle, c'est que je pense que quand même, toute révolution a, si on regarde dans l'histoire mondiale, les révolutions donnent lieu effectivement dans les périodes de transition à des choses très très dures, mais si on les regarde sur un long terme, c'est quand même mieux après. C'est-à-dire que si on prend la Révolution française, par exemple, bah c'est sûr, si on regarde la terreur, c'est terrible, la Révolution. Mais en même temps, personne n'aurait envie de revenir à l'Ancien Régime. Mmh. Personne ne voudrait être dirigé par un roi tout puissant. Et donc, les moments de passage sont des périodes difficiles, mais souvent après, elles donnent lieu à plus d'équité, plus de collectif, plus d'attention les uns aux autres. Et on peut donc espérer que là, on est dans le passage, mais qu'après, le coup de vent sera passé.
Évidemment, tout ça fait éminemment écho à la situation aussi du théâtre Océan Noir qui traverse une période de fragilité, de reconstruction, au propre comme au figuré, qui vient de rouvrir ses portes. Alors, vous êtes en train de jouer dans les murs. Comment la situation réelle du lieu dialogue avec la pièce et comment ça va en ce moment ?
Alors, c'était très étonnant, cette histoire, en fait, puisque quand on a commencé à travailler sur le spectacle avec mes amis du Colonel, on n'était pas sûr de jouer à Océan Noir, et Océan Noir n'était pas du tout dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui.
Oui.
Donc, on a cheminé ensemble. Et pour moi, c'était totalement vertigineux parce que je travaillais au théâtre et j'allais répéter et j'avais la sensation que les choses se tricotaient complètement ensemble. Enfin, moi, en plus, le théâtre Océan Noir, ça fait 30 ans que j'y travaille. J'ai été l'assistante d'Isabelle Pousseur pendant des années. J'y ai fait beaucoup de mes créations. Donc, c'est une cerisée pour moi. C'est une évidence, en fait. Et donc, il y avait cette espèce de chose très étrange où le théâtre était très en danger. Et en même temps, je montais la cerisée et j'avais perpétuellement la sensation que les choses se répondaient, se rencontraient. Et j'ai vraiment, enfin, à un moment donné, on s'est vraiment dit, mais il faut que ça apparaisse dans le spectacle. Il faut que cette situation-là, ce parallélisme existe, puisque là, on est dans une petite jauge. On sait que les spectateurs et les spectatrices qui viennent au théâtre connaissent la situation du théâtre.
Oui.
Donc on n'avait pas du tout envie de faire ça en stummeling. On se disait, on va partager cette sensation qu'on est qu'on joue avec la réalité du lieu aussi, qui est notre cerisée à nous, en fait.
Pour rappel, donc le théâtre a dû fermer momentanément pour faire des travaux urgents de remise en conformité. Ça coûte évidemment de l'argent. Cet argent, il a fallu le trouver. On l'a trouvé, mais on l'a puisé, je pense, dans un budget qui n'était pas initialement alloué à des réparations structurelles. Donc, c'est arrangé pour le moment, mais la situation va devoir se régler à long terme. C'est quoi l'avenir du théâtre Océan Noir à ce jour ?
J'espère qu'il est meilleur que celui de la Cerisée.
Ouais.
Pour le moment, on est dans une situation où on essaye de stabiliser la situation du bâtiment d'un point de vue. Alors, les travaux sont faits. Mmh. Donc, les spectateurs, les spectatrices peuvent venir. Il n'y a aucun problème. Là, on est super au top de la protection incendie. Donc, ça, de ce côté-là, c'est bien. Après, c'est ce qui est certain, c'est que ce qu'on aimerait, c'est de faire en sorte que ce bâtiment ne soit pas tout le temps comme ça, soumis à une possible disparition, perte, etc. Donc, on essaye de stabiliser la situation. On travaille à racheter le bâtiment, ce qu'on aimerait faire, mais ça peut être long. Il y a diverses nécessités. On en est là pour le moment. On est encore sur c'est encore mouvant. Voilà. On est encore sur un canot en pleine mer. J'ai bon espoir que la terre ferme soit devant nous et l'île radieuse aussi.
En attendant, le théâtre est toujours bien là. Il est ouvert et les cerisiers, effectivement, ne sont toujours ni coupés ni vendus. Donc, tout reste encore à venir. Dans l'air du Verseau, on ne l'a pas dit, mais on rit beaucoup aussi. Il y a beaucoup de moments très drôles. Il y a des tableaux magnifiques. Il y a une grande attention qui est portée aussi au visuel, à la scénographie. Il y a des moments un peu de rêve, des moments un peu oniriques qui échappent un peu au discours rationnel. Il y a beaucoup de choses. À la fin du spectacle, quand le plateau se vide et la lumière s'éteint, et on se quittera peut-être là-dessus, Guillemette Laurent, qu'est-ce que vous aimeriez que le public emporte avec lui? Peut-être pas tant comme message, mais comme état ou comme manière de rester un petit peu avec ce qu'il a traversé.
J'aimerais bien que l'émotion qui l'habite suscite de la pensée. Ça serait chouette.
Eh bien, c'est lancé, l'air du Verseau, une création du colonel Astral à découvrir donc jusqu'au 14 février au théâtre Océan Nord à Bruxelles, à Schaerbeek même. Et je vais reciter toute la distribution parce qu'elle est splendide. Kalia Barras, Da Fonseca, Marie Boss, Joe Dezor, Didier Deneck, Ferdinand Despie, Joël Elmaleh, Estelle Franco, Francesco Italiano. Je pense que je n'ai oublié personne. On peut aussi citer la merveilleuse scénographie de Nicolas Mouzet-Tagawa. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Kiosque sur la Première.
La chronique de cette semaine est signée Fanny Cuisse. Bonjour Fanny.
Bonjour Cynthia.
Vous êtes allée donc au Woulubilis lors de la représentation du spectacle Norman, c'est comme normal, à une lettre près. Une séance destinée aux écoles, mais parmi les spectateurs et spectatrices, il y avait 3 pensionnaires du Home Saint-Lambert. C'est une initiative rendue possible grâce aux rencontres intergénérationnelles proposées par le Centre culturel.
Et oui, et l'idée est née pendant le Covid, sous l'impulsion de Valérie Lozet, chargée de programmation et projet jeune public au Centre culturel de Woulubilis.
J'étais hyper choquée de la manière dont on avait fermé ces homes, ces personnes âgées qui ne voyaient plus d'enfants, qui ne voyaient plus leur famille. Et de là, je me suis dit, je suis chargée jeune public, mais pourquoi est-ce que je ne rajouterais pas un chargé senior aussi dans mon travail? On a fait des projets où on rassemblait plutôt des enfants de familles différentes qui s'engageaient volontairement à travailler sur le long terme avec des artistes, créer un projet, et on allait dans les homes les présenter, avec les masques, les conditions sanitaires. Et donc de là, je me suis dit, en fait, il faut continuer chaque année. Il y a une vraie rencontre qui se passe entre les seniors et les enfants. Et tout d'un coup, je me suis dit aussi, j'accueille 7 à 8 spectacles par an au Centre culturel Woulubilis avec Pierre Delune. Et je me suis dit, il y a toujours des petits trous dans les salles, parfois une dizaine de places, on ne sait pas rajouter une classe. Et là, je me suis dit, je vais appeler l'Home Saint-Lambert. Et depuis, en fait, Laure, donc, du coup, qui travaille là-bas, vient remplir avec les seniors qui sont motivés ce jour-là et qui sont vaillants ce jour-là. Et elle vient assister aux représentations.
Mais quelle bonne idée, dites donc.
Je suis d'accord, ça a été vraiment une belle rencontre. Et comme vous l'avez dit, ce jour-là, le spectacle proposé, c'était Norman, c'est normal, à une lettre près, de la compagnie Cosmo Company. Et Norman, ce qu'il aime, c'est porter des robes. Et un jour, ses parents l'autorisent à porter une robe. Et alors qu'il se rend à l'école, le regard des gens autour de lui change. Il y a des questionnements, des critiques, des jugements. Et en fait, c'est une pièce qui permet de très belles conversations, comme vous pouvez l'imaginer, entre la classe de 5e primaire de Madame Léa Siebelberg de l'école Warburslum à Woluwe-Saint-Lambert et les 3 invités stars du Home Saint-Lambert.
Je m'appelle Julila, j'ai 10 ans et j'ai bien aimé le spectacle.
Et moi, je m'appelle Élise. Je n'ai pas 10 ans, attention. Et le spectacle était sensationnel. J'ai beaucoup aimé.
Je m'appelle Anne-Marie. Et c'était très agréable comme spectacle. L'ambiance des enfants, c'était très bien aussi.
Je m'appelle Jacobus, j'ai 96 ans. J'ai beaucoup apprécié la pièce.
Et moi, c'est Laure, donc je suis éducatrice dans une maison de repos. On ne se repose pas beaucoup, d'ailleurs, au Home Saint-Lambert.
Je suis fan.
Oui, ils étaient incroyables. On a passé un moment assez dingue avec ces 3 pensionnaires et puis l'éducatrice Laure. Et d'ailleurs, lorsque la présentation a été terminée du spectacle, ils se sont pas vraiment reposés, car pendant plus d'une demi-heure, ils ont répondu aux questions des enfants.
Quelle est votre partie préférée?
Le garçon était vraiment super. Les 2 autres aussi ont joué très très bien. Mais lui était vraiment super, je trouve. Par les gestes qu'il faisait, tout ça, était super. Qu'est-ce que tu préférais?
Qu'est-ce que tu préférais dans le spectacle?
Les couleurs. Et c'est très difficile avec la rapidité avec laquelle on parle. À la télévision aussi, on parle de plus en plus vite. Et quand Jacobus s'amène avec ses 96 ans, il est difficile à suivre. C'est pourquoi j'aimerais bien qu'on me donne à l'avance le texte qui va être dit.
Eh mais oui, c'est pas bête ça, effectivement. Merci Jacobus.
Mais oui, et rassurez-vous, en fait, il a obtenu le texte parce qu'il existe. Il a été publié aux éditions Lanceman Jeunesse. Mmh. Et donc Laure Tétard, l'éducatrice, l'a acheté pour lui. Et ces couleurs dont parle Jacobus, elles sont importantes dans le spectacle car tous les personnages sont habillés en jeans. Bah, sauf notre cher Norman qui est avec sa robe rose. Et donc ça marque les esprits. Et justement, cette robe, ils vont en parler longuement pendant cet échange.
La pièce, est-ce que ça a été bien? Ils ont bien compris.
Je veux dire, faut pas toujours faire ce que les autres te disent. Genre, par exemple, toi tu es en robe comme Norman et il y a des personnes qui te regardent mal. Faut s'occuper de toi-même. Faut pas regarder le visage des gens. Faut juste faire ce qu'on veut.
Mais j'ai l'impression qu'on a plus le droit aujourd'hui qu'à l'époque, hein, quand je vous entends parfois.
Oui, mais non. On accepte mieux maintenant. On accepte mieux maintenant que dans le temps. Dans le temps, on n'acceptait pas du tout.
Mmh. Et cette réflexion sur le regard de l'autre et la tenue que l'on peut porter ou non, ben, elle a amené à évoquer d'autres cultures où les hommes portent des robes, mais aussi une époque que les enfants n'ont jamais connue, lorsque les femmes, les filles, ne pouvaient pas porter de pantalon.
Non, dans le temps, il y a tous les gens avaient des jupes plissées et tout ça, enfin, des longues jupes.
Oui, c'est ça.
Je vois ma maman encore avec des jupes jusque là-bas. C'était tout déplissé. Moi, j'avais des shorts en été, je vais avoir 80 ans.
Ouais.
Ma mère me dirait, mais t'es pas bien dans ta tête.
Et cette discussion entre les enfants et les trois pensionnaires du Home Saint-Lambert, elle leur permet de partager des souvenirs devant une classe très attentive et curieuse. Et aussi, l'occasion de faire tomber certaines idées reçues.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui portaient un chapeau de lin?
Interdiction de porter le chapeau de lin.
Est-ce que quand vous aviez des punitions, vous deviez porter un chapeau d'âne?
Non, non.
Ah, ouais,
on n'a jamais été punis, nous. Jamais.
Jamais.
Mais voilà, un mystère résolu. C'est vrai, c'est une question que je me posais aussi.
Ah ben voilà, pas de chapeau d'âne. Donc lors de cet échange, il y a eu beaucoup d'écoute et de rire, comme on l'a entendu, de partage. Une belle rencontre entre différentes générations. Et justement, dans la pièce, Norman va voir ses grands-mères qui auront une réaction totalement différente des autres personnages. Leur réaction sera remplie de sagesse et d'amour. Et voici ce que Anne-Marie et Élise ont pensé de ce moment.
Elle avait une vertu d'esprit assez large.
C'est un peu large d'esprit. Oui. Mais non, c'est comme ça, les grands-parents ont l'esprit un peu plus large, comprennent mieux leurs enfants. Enfin.
Si vous aviez maintenant un petit-fils qui s'habillait avec une jupe, vous l'accueilleriez comment?
J'accepterais.
Ben voilà, je pense que c'est...
Oui.
On va lui laisser le dernier mot.
Exactement.
On va peut-être juste rappeler où on peut voir cette pièce à nouveau.
Eh ben, on peut le voir le 17 mars à la Maison Culturelle Date, du 27 au 29 mars à Carnion, puis à Tubize. Et en fait, ils vont encore tourner jusqu'en 2027. Toutes les dates sont disponibles sur cosmocompagnie.net.
Merci Fanny Cuisset et bravo encore à Volubilis pour cette merveilleuse initiative intergénérationnelle qui fait tomber pas mal de barrières, presque sans effort, j'ai envie de dire.
Ouais.
En attendant, effectivement, la pièce est à revoir un peu partout. Tout aller voir sur le site de la Cosmo Compagnie. On reste dans le vivre ensemble dans la suite. On va essayer de se mettre d'accord. Et je vous préviens, c'est pas toujours gagné.
Kiosque sur la première.
Se mettre d'accord, certes, sur quoi faire, comment le faire, avec qui et jusqu'où aller, sur ce qu'on est prêt à céder, à défendre, à abandonner et sur ce qu'on ne négociera jamais. À une époque où le désaccord est souvent bruyant, violent ou stérile, en général, nous sommes d'accord, c'est le titre, prend un chemin plus fragile, celui du faire ensemble, dans toute sa beauté et surtout dans toute son inconfortable complexité. C'est un spectacle qui observe avec humour et lucidité ce qui se passe quand on essaie vraiment de décider collectivement, sans chef, sans solution miracle et surtout sans mode d'emploi. Ce sera à voir ou à revoir dans quelques jours au Théâtre 140 pour en parler. On reçoit Marie Lecomte et Hervé Pierron du collectif Rien de spécial. Bonjour.
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 Bienvenue à tous les deux. Vous faites partie donc de ce collectif, hein, Rien de spécial, qui explore depuis plusieurs années les formes du jeu collectif, de l'intelligence collective, de la décision partagée et des micro-utopies, si je puis dire. Et dans cette nouvelle pièce, dont en général nous sommes d'accord, eh bien, on voit arriver un groupe de quatre personnes qui manifestement se connaissent à des degrés d'intimité plus ou moins divers. Dans un lieu nouveau, en tout cas personne n'a l'air de connaître ce lieu, on le découvre. On ne sait pas trop où on est, si c'est un atelier de coworking, un manoir abandonné, un nouvel appartement, on ne saura pas trop. C'est en tout cas c'est assez étrange, c'est immense, c'est délabré. Et l'organisation est régie par des règles un peu improbables qui vont se complexifier au fil du temps. C'était quoi le point de départ précis du projet sur ce thème que vous aviez déjà exploré en partie précédemment?
En fait, ce thème, on l'avait pas vraiment exploré. C'est juste que nous, on est un collectif depuis super longtemps, depuis 2011, notre premier spectacle. Et le point de départ, c'est vraiment qu'on s'est posé. Après toutes ces créations, justement, on s'est dit, nous, on fonctionne collectivement et on a notre façon de fonctionner qui est empirique, parce que les gens nous demandaient souvent comment vous travaillez. Mm-hmm. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de règles et que c'était organique, comme on pourrait dire. Et ça nous a donné envie d'aller poser plein de questions à plein d'autres collectifs artistiques, mais pas forcément artistiques. On a rencontré d'autres groupes pour leur poser ces questions de fonctionnement. C'est quoi vos règles?
Et qu'est-ce que vous avez eu comme réponse?
Comment ça marche un collectif finalement? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a des modes d'emploi?
Oui, alors ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de modes d'emploi que quand on a commencé en 2011. C'est une culture qui s'est vachement développée, la culture de l'intelligence collective. Mm-hmm. Et on le voit, il y a un organisme à Bruxelles qui s'appelle Communa, qui est complètement surbooké, parce que donc ils font des formations pour tous les milieux professionnels ou les assos, pour apprendre à décider ensemble et plus collectivement, et ils doivent refuser des gens tellement ils ont demande. Et donc ça, c'est quelque part, nous, ça nous enchante, parce que il y a vraiment un mouvement comme ça en ce moment. Alors c'est assez paradoxal, même politiquement, on voit qu'il y a un peu, un moment où il y a plein de petits chefs, des petits tyrans, mmh, qui essayent un peu des petits ou des grands tyrans qui essayent un peu de prendre le dessus. Mais il y a aussi un gros mouvement dans la société civile d'égalité, de faire ensemble, de démocratie. Et donc, pour nous, c'était le moment de parler de ça, parce qu'on trouve ça beau et qu'on pratique ça nous-mêmes. Et effectivement, comment ça marche chez les autres, ça dépend vraiment à chaque fois du contexte. Et voilà. Enfin, nous, on a toujours, je sais qu'il y a un autre collectif théâtral qui, chaque réplique, mmh, est votée à l'unanimité.
Waouh, ça doit prendre du temps.
Oui, c'est le Raoul, ça. Mm-hmm. Et ça fait des super spectacles. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus le consensus.
Oui, mais ça prend du temps aussi. Enfin, mm-hmm. De toute façon, c'est plus long, c'est sûr.
C'est la base, finalement. C'est l'ingrédient principal, le temps,
je crois. Ouais.
Mmh. Oui, ça prend beaucoup de temps, ça prend. Mais la matière artistique, ça prend toujours du temps, quoi, de toute façon.
Ouais. Alors, dans le spectacle, la mise en scène que vous avez choisie pour illustrer ces mécanismes, c'est donc ces quatre personnes, alors qui se connaissent déjà. C'est quand même toujours plus simple quand on se connaît déjà un petit peu.
Il y a une personne qui se connaît, qui arrive dans le groupe,
qui est un peu est nouvelle venue, mais on dirait quand même, elle est pas complètement étrangère au groupe, mais en tout cas, elle est nouvelle. Mmh. En quoi la métaphore finalement de l'emménagement, de la restauration, de la rénovation d'un lieu de vie, c'était un bon point de départ justement pour parler de ça? Parce que c'est pas forcément là qu'on va aller en premier quand on réfléchit à l'intelligence collective. On va plutôt penser au milieu de l'entreprise, par exemple. Vous choisissez vraiment le vivre ensemble au premier degré. C'était la bonne métaphore pour que tout le monde s'y retrouve.
Oui, en fait, on voulait que ça soit large et que ça parle pas que... Pas d'artistique aussi, on voulait pas que ce soit un groupe d'artistes. Et on voulait pas que ça soit trop qu'on sache d'où venaient ces gens. En fait, ce qui nous intéressait, c'était de les voir ensemble fonctionner. Et pareil pour le projet, on s'est vachement questionné. Est-ce qu'on leur donne un projet concret? Et on a aussi choisi de laisser le flou. Mmh. On sait pas quel est leur projet, à part qu'effectivement, ils ou elles investissent un lieu. Mais ça, il y a plein de situations où on reçoit un lieu. Nous, on s'est inspiré aussi de notre propre expérience où on avait reçu un bureau partagé, mais alors un bureau partagé très chaotique, où on était une quarantaine, on voyait jamais les autres, on savait pas, c'était en anglais, enfin voilà, on s'est vachement inspiré de nous, c'est vrai, on travaille aussi comme ça.
Mmh. Ce collectif, il est aussi composé de quatre personnalités qui sont par moments complémentaires, par moments en opposition, et c'est pas forcément, parfois il y a des binômes, parfois pas, et on voit que c'est très très mouvant. La recette de l'intelligence collective au sein d'un groupe, elle dépend avant tout des personnalités individuelles de ce groupe. En fait, on peut pas faire abstraction de la part individuelle de chacun si on veut faire de l'intelligence collective. C'est peut-être ça que je voulais dire.
Mais en tout cas, dans ce groupe, comme on a composé, on a lu notamment un peu la prêtresse en intelligence collective, c'est Starhawk, c'est une américaine, et elle explique un peu qu'il y a des types dans chaque groupe que chacun va reconnaître aussi bêtement en partant en vacances. Il faut pas être bénévole dans une association pour, je veux dire, il y a l'éternel rebelle, il y a quelqu'un qui a une tendance à avoir beaucoup d'initiatives et les autres reposent automatiquement sur culturelle.
Il y a ceux qui disent toujours non.
Il y a ceux qui disent toujours non. Il y a le rêveur qui, voilà, qui est très gentil et très motivé, mais qui retarde beaucoup. Voilà. Et donc, quelque part, oui, dans un groupe, il n'y a pas de groupe parfait. Il y a toujours... bon, là, on a fait une comédie, hein. Mm-hmm. C'est quand même important de le souligner. Oui. Donc, c'est tous un peu des canards boiteux, quoi. Mais ils ont du charme chacun. Et quand même, ils avancent malgré tout, petitement, mais ils avancent, quoi. C'est ça qu'on voulait un peu. Et puis voilà, c'est la beauté d'être ensemble aussi. Parce que même si chacun, on va dire, a des défauts et on le sent, chacun est assez seul. Au moins dans le groupe, ils se dépassent un peu, quoi.
Ouais. Alors on rit beaucoup, mais c'est souvent aussi un rire qui gratte un peu parce qu'on se reconnaît à plusieurs moments dans les uns ou dans les autres. Voilà, il y a celle qui effectivement veut tout porter à bout de bras et qui finit en épuisement. Il y a celui qui prend des décisions un peu dans son coin incongru et qui se mange la désapprobation des autres. Il y a le super anxieux qui veut tout contrôler mais qui en même temps veut jamais dire les choses franchement. Enfin bref, l'humour justement, le choix d'en faire une comédie, c'était pour décaler le propos, pour éviter que ça tourne à la conférence. C'était quoi?
Ouais, dans notre travail depuis toujours, on espère, on fait des spectacles où c'est super important de pouvoir en rire. Et aussi, nous, on veut pas donner de leçons. Et justement, sur ce sujet-là, où il y a énormément d'outils, où ça peut être, ça pourrait être un peu didactique, nous, on veut vraiment pas faire ça. On veut faire du théâtre, c'est une fiction. Mais on accompagne le spectacle d'ateliers qui sont...
Oui.
Qui sont dirigés, enfin pas dirigés justement, pas, qui sont, je ne trouve pas,
facilités,
quel le mot magique, par Laurette Moreau. Parce que oui, nous, on voulait faire une fiction, on voulait pouvoir rigoler et voilà, c'est
oui,
comme ça qu'on travaille.
On voulait montrer un peu des pieds nickelés, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment une super bonne volonté. La dramaturge du spectacle, sa maman, elle a monté un lieu comme ça avec dans une petite commune en France, dans le sud de la France. Ils ont monté un tiers-lieu, donc ils ont reçu un local de la commune et notre inspiration, c'était ça. C'était des gens qui ne s'y connaissent pas parce qu'il y a une culture de l'intelligence collective, mais nous, nos personnages ne s'y connaissent pas.
Oui.
Mais par contre, on pense que c'est important et c'est hyper utile dans tous les groupes d'apprendre les outils. Et du coup, on a fait cette petite formation après qui est ludique et on mélange un espèce de bord de plateau où on peut avoir les questions des spectateurs à comment est-ce qu'on va décider de comment organiser ce bord de plateau.
Mm-hmm.
Voilà. Et du coup, on crée un espèce de une intersection un peu intéressante et différente, une expérience différente pour les spectateuristes juste après le spectacle qui dure 30 minutes et ça marche assez bien, on est content.
Est-ce qu'il faut accepter quand on se lance dans des formes expérimentales comme ça que parfois ça ne prenne pas, justement, que l'intelligence collective, parfois, ça peut rater et qu'il y a quand même quelque chose à en apprendre?
Ben oui.
Est-ce que vous avez déjà eu le cas ou est-ce que jusqu'ici ça a toujours fonctionné d'ailleurs?
Il y a toujours, comme vous disiez tout à l'heure, le facteur humain.
Ouais.
On a beau avoir les meilleurs outils, on peut être dépassé par ses émotions, on peut aussi évoluer, donc avoir des personnalités qui marchaient ensemble à un moment et puis plus, et puis avoir d'autres horizons qui s'ouvrent. Nous, ça nous est arrivé dans notre collectif aussi.
Mm-hmm.
On doit tout le temps en fait se repositionner et réajuster. Ouais, ça arrive que ça fonctionne plus, mais en tout cas, on est toujours en mouvement. Et c'est ça qu'on trouve beau, c'est qu'on essaye, quoi.
Ouais. Donc le blocage, il est inévitable par moment, mais il n'est pas forcément définitif, c'est ça?
C'est ça. Et puis les petits outils qu'on glane au fil du temps aussi en rencontrant d'autres personnes, on se les applique à nous-mêmes. Et c'est vrai que ça aide vachement. Et si c'est dans des choses ludiques, en plus, ça peut dédramatiser.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les outils permettent de penser au groupe autrement, en termes de faire des pauses et aussi de se rendre compte aussi de tout ce qu'on a fait. C'est ça qu'on a appris nous en commençant à travailler avec l'intelligence collective aussi, c'est que beaucoup de groupes associatifs, que soient bénévoles ou non, ils travaillent énormément en général. C'est des gens qui bossent et qui sont souvent au bord de l'épuisement et qui ne se rendent même pas compte de toutes les richesses qu'ils ont. Et je pense que dans un groupe, il y en a énormément. Dès qu'il y a un projet et que ça dure un peu de temps, il y a énormément de richesses, de ressources. Et l'intelligence collective permet d'être fier de ça. Et ça, c'est beau, quoi, mm-hmm. Parce que... Voilà, effectivement, il faut chacun mort sur sa chique dans un projet de groupe, mais c'est ça qui est beau aussi, quoi. Plus le projet. Hein. évidemment.
Et une question qui traverse aussi le spectacle, c'est celle de l'absurdité parfois de la règle qui peut être arbitraire. Il y a beaucoup de règles qui sont posées, que vous héritez comme ça des occupants précédents, mais qui ne sont pas forcément questionnées. C'était comme ça, donc il faut faire comme ça, même s'il n'y a plus personne pour vérifier que c'est important qu'on fasse comme ça. C'est aussi un des fondements de l'intelligence collective, c'est toujours se poser la question du sens d'une règle qu'on impose ou qu'on établit pour un groupe.
Bah oui, ça nous est venu aussi de notre expérience à nous, de ce lieu partagé qu'on a eu à un moment, ces règles étranges et qu'on ne remet pas en question, mais plus largement, ça nous fait penser au monde et à tout ce qu'on trouve débile et nul, mais que voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est comme ça et qu'on peut rien y faire, ou est-ce qu'on met un petit stop? Et par rapport à ces règles, l'intelligence collective, c'est comme tous les outils. Il y a des choses à prendre et des choses qu'on peut aussi renégocier, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai que les règles, enfin, moi, ça me faisait penser à la période qu'on a eue avec le Covid, quoi, où on a vu tellement de changements de comportement, des choses qui étaient déterminées, où on se disait tout le temps, c'est comme ça, et puis tout d'un coup, les gens ont commencé à fonctionner autrement, et ça marchait aussi, et que simplement, des fois, un arrêt peut permettre de... En fait, c'est très difficile, je pense, une fois qu'on est lancé et qu'il y a un fonctionnement, on préfère l'appliquer plutôt que... C'est ça, en fait, souvent la base de l'erreur...
C'est l'inertie.
C'est l'inertie, et puis c'est le déni de se dire, bon, allez, on continue, même s'il n'y a plus aucune raison pour avancer comme ça. Et c'est ce que propose l'intelligence collective, c'est de dire, ok, stop, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça encore? Ah oui, c'est peut-être pas le plus pertinent. On change, on décide un autre fonctionnement. Voilà. Et ça demande des outils et ça demande d'accepter de faire une pause, quoi.
L'aventure dérisoire d'individus au service d'un idéal commun avec des résultats certes pas très spectaculaires, mais ô combien touchants et parlants, parce qu'on s'y reconnaîtra tous et toutes. Marie Lecomte, Pascal Binet, Hervé Piron et Joseph Colonna, donc le collectif Rien de spécial dans cette création en général. Nous sommes d'accord, qui sera à découvrir au Théâtre 140 les 11 et 12 février prochains. Et il y aura donc un bord de scène avec un exercice d'intelligence collective. Je pense que ce sera d'ailleurs le 12 février, si je ne m'abuse. Ou ce sera chaque soir.
Dans mon souvenir, c'est à chaque fois.
Eh bien, si c'est à chaque fois, c'est encore mieux. Dans tous les cas, les informations sont sur le site du 140, le140.be. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
Kiosque sur la première.
Vous ne savez toujours pas quoi faire de vos soirées après tout ça? Eh bien, pas de panique, on a encore des recommandations à vous glisser. Fanny Cuisset.
En ce moment se déroule le festival Pays de Danse pour cette 11e édition. Le thème est héritage et territoire. Une invitation pour tous les âges à découvrir la danse contemporaine à travers des compagnies venues d'Asie, d'Espagne, de Tunisie, des Royaumes-Unis et même la Belgique. Parmi les propositions belges, je voulais vous en parler d'une, c'est Opéra Punk du collectif Brut oui. Movement, accessible aux enfants, parce que vraiment c'est important de rappeler que même la danse, c'est pour les enfants.
Tout à fait.
Sur scène, 4 artistes font de la scène un terrain de jeu mêlant danse, musique, théâtre, avec une énergie contagieuse. Une comédie musicale libre, punk, drôle et tendre, à découvrir ce dimanche 8 février. Et puis, la clôture du festival, qui est le 14 février, sera assurée par la Korean National Contemporary Dance Company, qui est de retour à Liège après 10 ans d'absence. Je vous conseille d'aller le voir aussi, et c'est en double soirée avec Everything Falls Dramatique. Et puis, ça se passe donc jusqu'au 14 février. Mais c'est pas qu'à Liège, c'est à Verviers, à Marchin, ah oui, à Charleroi et à Sète. Donc allez-y.
Allez-y, courez-y au festival Pays de Danse, c'est toujours bien. Et quant à moi, je vous propose d'aller découvrir au Centre culturel de Uccle l'odeur de la guerre. C'est l'histoire de Jeanne qui s'apprête à monter sur le ring pour son premier championnat de boxe. Et dans le vestiaire, entre l'adrénaline et l'odeur du camphre, eh bien, ce sont tous ses souvenirs qui lui remontent dans la gorge. L'enfance dans le sud, le père qui aurait voulu un fils, la mère absente et un coach pour qui seule la dureté peut vous mener à la victoire. C'est un rôle qui a été créé par Julie Duval. C'est une mise en scène et un seul en scène autobiographique. Là, le rôle est repris par Cécilia Hanseu pour l'occasion. Ça va se jouer deux soirs de suite donc au Centre culturel de Uccle. C'est un spectacle sec, puissant et qui frappe juste. On vous le recommande. Kiosque, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode était réalisé par Perrine Lucas et Andrea Rouillo. Retrouvez tous les épisodes de Kiosque sur vos plateformes d'écoute favorites et pensez bien à vous abonner et à nous laisser des étoiles. Ça fait de la lumière dans la nuit. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, aimez-vous et prenez soin de la culture comme elle prend soin de vous. À bientôt.